dimension humaine, probablement via la science-fiction, mais aussi par notre littérature imaginaire. Donc j'ai la chance d'avoir autour de moi quatre auteurs qui ont réinventé, disons, un petit peu l'humain, chacune à leur façon, et on va le voir avec des approches tout à fait différentes. Bon, pour commencer, Camille Brissot, donc vous avez le, je crois que c'est ton premier, c'est pour ça. Donc elle fait mon Dieu, j'ai honte. Ça commence très bien. Sibylle, dont vous n'avez pas les bouquins, mais donc vous trouverez sur le stand des années d'imaginaire, là, et qui en particulier de sortir un recueil tout à fait étonnant qui s'appelle l'Étonnant de l'Opéra de Chaya, et qui était très attendu par son public. J'ai Jeanne de Batz qui publie régulièrement, mais qui réinvente le monde de manière à peu près systématique. Et Sylvie Denis qui l'a fait, et dont on attend avec impatience qu'elle nous refasse. Donc, je vais commencer peut-être par Sylvie, parce que peut-être ça a toujours un petit problème d'ambiguïté, parce que j'ai une certaine. Donc, je vais commencer par Sylvie, effectivement, parce que toi, tu as réinventé l'humain en particulier dans cette livre, je dirais, sous l'angle de la nécessité sociale, de la nécessité locale, c'est-à-dire que les circonstances dans lesquelles on vivait, les conditions pratiques faisaient qu'il fallait que le climat change. Ça commence bien, encore une fois.
L'idée, c'est que ça va être possible.
Bien sûr.
Ça l'est dans une certaine mesure déjà, puisqu'on a déjà la possibilité de choisir dans quel point on reste. Et je pense que quand on aura la possibilité de choisir,
parce que c'est possible.
Bah, je pense que les choses sont venues ainsi à partir du moment où on a inventé le feu, à partir du moment où on a commencé à rendre notre vie légèrement meilleure qu'elle n'aurait été si on était resté des animaux qui ne savaient pas faire un certain nombre de choses. Lui était pris et
quelque chose que les adolescents tentent actuellement. C'est quelque chose que les adolescents tentent actuellement. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est que tu passes de l'homo habilis, l'homo faber, celui qui fabrique, celui qui change, à quelqu'un qui applique à lui-même. C'est possible. Le changement, c'est que la science-fiction que tu utilises permet de décrire la réinvention de l'humain par l'espèce elle-même qui dit je ne me contente pas de ce que je suis, je vais changer l'espèce tout entière. Alors que jusqu'à présent, l'être humain changeait son environnement. Il se changeait lui-même au sens où il se dotait petit, qui prolongeait ses bras, qui prolongeait ses sens, mais il ne changeait pas intrinsèquement ce qu'il était chez toi, tu le fais.
Oui, mais je pense pas qu'il change intrinsèquement ce qu'il était, justement. Je pense qu'il continue par d'autres moyens plus beaucoup plus puissants. Et avec des effets beaucoup plus étendus. À mon avis, dans les bouquins de science-fiction, en fait, l'être humain est encore plus lui-même. Il devient l'homme très humain. Si on considère qu'effectivement, je considère que l'humain, c'est ce qui le caractérise, une des choses qui le caractérise, c'est notre capacité à externaliser, à déléguer un certain nombre de, et amplifier un certain nombre de choses que nous faisons. On est parfaitement capable de s'assurer de manière par terre. C'est pas plus sympa de faire des chaises. Des coussins.
Ce que je veux dire, c'est que tu décris dans les deux livres des trajectoires sociétales. Alors que justement, pour basculer sur l'autre civilité, où là, la réinvention de l'humain, c'est par une espèce de décision individuelle. Dans un certain nombre de tes textes, ou dernièrement dans le local de chacun, tu as un certain nombre justement de ce côté-là, où l'être humain décide de se poser la question de sa propre humanité et de le réinventer à sa façon. Soit qu'il va au contact de quelque chose, soit qu'il décide de se transformer.
Tu me trompes les gens pour avoir besoin de problèmes comme ça, parce que j'ai des humains qui se transforment, mais je ne suis pas sûre que ce soit leur décision à eux. C'est justement la transformation qu'ils subissent en général. Il y a des faits qu'ils ont rencontré des races qui n'étaient pas humaines, ou des créatures qui n'étaient pas humaines, et c'est la rencontre qui les transforme, et pas tout à fait comme ça s'est dit dans le processus de l'humanité au départ. Donc, je prends deux, trois exemples de la manière dont j'ai abordé ça. Il y a un des textes qui s'appelle Les yeux des arts, dans lequel un humain rencontre un dauphin génétiquement modifié qui est devenu une créature aussi intelligente que lui, qu'on utilise au niveau de la société humaine pour travailler dans des chantiers sous-marins. Alors c'est une histoire individuelle que je raconte, mais c'est aussi une histoire qui aurait pu être presque la même si j'avais mis en scène la rencontre entre, par exemple, un soldat allemand et une jeune juive dans un camp de concentration. La rencontre n'aurait pas été si différente et la situation n'aurait pas été si différente. Mais on l'aurait lu avec toute notre grille de jugements moraux. On se serait dit son attitude est mauvaise, il la considère comme un être inférieur parce que dans sa représentation les juifs sont une race inférieure, et ça aurait été simple, on aurait eu qu'une lecture possible de l'histoire. Moi j'ai utilisé la science-fiction dans cette situation-là en faisant de la fille qui rencontrait cette fille, ça a son importance, un dauphin, ce qui fait que quand il dit elle est un animal, objectivement c'est vrai. Mais c'est aussi une créature aussi évoluée, aussi intelligente que lui. Donc voilà, après, le lecteur n'a pas la possibilité de s'accrocher à tous les jugements moraux qu'on a par rapport à ça, qui ferait que l'on se dirait c'est mal. On est en même temps d'accord avec lui, parce qu'il a raison, elle n'est qu'un animal. Donc ça oblige à revoir la lecture qu'on a de la manière dont l'humain se perçoit lui-même par rapport.
pour en venir à ma petite cartographie personnelle, la littérature générale a tendance à interroger les marges. Le polar, le thriller, même la littérature entre guillemets blanche a tendance à interroger des gens qui sont soit aux marges du système, soit aux marges de ce que l'on conçoit, que ce soit le tueur en série ou le criminel, ou même l'amoureux qui est peut-être moins accessible. La science-fiction bascule sur la frontière. À quel endroit l'humanité s'arrête? Et qu'est-ce qu'on fait? Et jusqu'où va-t-elle? Et jusqu'où est-elle capable d'aller? Et la différence, je dirais, pour moi, qui est très passionnante entre la manière dont chacun d'entre vous aborde la chose, c'est des trajectoires individuelles, des trajectoires sociétales. Dans le cas particulier de Jeanne Bébat, qui a l'énorme avantage de ne pas avoir un prénom partagé par d'autres personnes, on a carrément la notion de mutant. C'est-à-dire là, on a des gens dont le rapport à l'humanité est faussé dès le départ, puisque l'humanité elle-même dit vous n'avez pas la même dimension génétique que moi, vous êtes autre chose.
Change pas. On devient
ce qu'on a décidé d'être. Et on avait déjà l'état. Sauf quand même que tu triches, ce qui est quand même notre droit et devoir absolu en tant qu'écrivain, c'est vraiment le mandat qu'on reçoit. Parce que par exemple, tu as un personnage de vampire tout à fait délicieux qui quelquefois va faire des enquêtes dans des bordels extraterrestres, etc. Et à ce moment-là, la définition de ce qui reste de l'humain, sachant que c'est un individu qui par définition est allé entre guillemets au-delà, mais ce que tu essaies de dire, c'est que comme tout le monde tricheur, il a quand même apporté avec lui ce qui était important. Narrativement, c'est intéressant entre les gens qui partent d'un humain, qui les mettent à la rencontre de quelque chose qui, je dirais, les oblige à se redéterminer alors qu'au départ ils partent de là, ceux dans lesquels la société elle-même a déjà fait ce saut, qui sont en train de se demander ce qu'ils deviennent, qui vont, les gens comme toi qui partent effectivement de l'autre côté. Je ne suis pas humain, mais le regard qu'on me porte m'oblige à définir. Et alors, Camille, toi, où te situes-tu? Parce que toi, tu as carrément des gens qui ont piqué le corps et qui se retrouvent fantômes, donc reste-t-il de lui?
La question de la redéfinition, c'est pas redéfinir dans l'humain, mais c'est plutôt qu'est-ce qui se passe après moi. Parce que finalement, en fait, le personnage principal est mort, c'est un fantôme. C'est un fantôme, et il y a une seule personne qui peut toujours voir, en fait, son compagnon.
C'est-à-dire que la question que chacun des intervenants pose, d'une certaine façon, c'est qu'est-ce qui est important à garder ? Jusqu'où peut-on aller en gardant ces choses importantes pour pouvoir encore se qualifier de l'humain ? C'est-à-dire jusqu'où l'humain peut-elle aller et quel sac à dos faut-il remplir pour continuer à le rester ? Et ce qui est très, très intéressant, c'est que la science-fiction, qui est aussi une littérature sociétale, c'est même d'après l'un des dernières littératures sociétales, se pose la question à la fois vis-à-vis de l'humanité. Comment l'humanité reste l'humanité en allant dans les étoiles, par exemple, ou en rencontrant une race extraterrestre, mais aussi au terme de l'individu, hein, est-ce que je reste un individu en perdant mon corps, en allant au contact d'une espèce aussi intelligente que moi, mais vis-à-vis de qui j'ai un certain nombre d'a priori ou de préjugés, comment est-ce que je me redéfinis? est-ce que en tant que mutant, j'accepte le fait d'être mutant, ce qui serait facile si personne ne me posait de problème, sauf que les gens autour de moi me regardent et me mettent dans des espèces d'endroits où on me dit, tant que tu ne sors pas de là, tout va bien. Donc toutes ces questions-là, ce n'est pas tellement redéfinir l'humain, c'est redéfinir le regard que les humains posent sur eux-mêmes. Et c'est là que la science-fiction devient adorablement dérangeante, en disant, est-ce qu'on n'est pas en train de chacun réduire la dimension de l'humain que l'on voit en face de soi? Alors, on va essayer de demander Sylvie Toto Lenné, qu'en penses-tu?
En t'écoutant, j'étais en train de me dire que Robocop aussi prend la décision de devenir humain. Terminator, non, Terminator 2, il prend la décision de devenir humain. Et dans Terminator 3, c'est évident que la décision a été reprise. Même si on l'avait imposé de l'extérieur, puisque chaque fois, il a été programmé, si je me rappelle bien, par Madame Connors, Sophie, enfin, la femme de John Connors. Même avec la programmation, c'est une décision. Je n'ai pas de réponse à ce que je dis là. Je suis justement. Oui, quand est-ce que voilà.
C'est intéressant parce que tu es en train d'établir une espèce de triple hiérarchie entre le premier, je dirais, l'échange intellectuel qui peut se faire avec une intelligence artificielle, même entre deux niveaux, l'échange, je dirais, émotionnel qui à ce moment-là arrive à dire ok, nous pouvons bâtir quelque chose, et puis il y a un moment donné la triple. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est quelque chose, par exemple, les trois niveaux sont présents dans l'œuvre de Denis. Alors, si, vraiment. Qu'est-ce qui redéfinit l'humain et surtout quel point de vue avez-vous choisi pour regarder en quelque sorte l'humain de l'extérieur en lui disant dépliez-vous, parce que c'est un peu ce que vous avez dit chacune d'entre vous. Si on te dit qu'il y a un fantôme quelque part, mais qu'il ne fait pas de bruit, on ne voit pas, etc. Bon, ben, très bien. Il n'apparaît qu'à partir du moment où quelqu'un le voit. La force de cette façon de raconter, et regarde l'ensemble des demoiselles de cette table, chacun construit son mémoire, chacun construit l'endroit dans lequel on dit je reflet vous parle de quelque chose que vous ne pouvez pas voir, mais je vous ai montré le reflet. Et la construction de ce reflet, c'est comme toi avec la personne qui nous fantôme, c'est ce qui permet de faire cette réflexion. Mais c'est triché, mais c'est merveilleusement triché. Ça peut être une bonne idée, ça peut être une bonne idée, mais tu viens de citer par exemple le miroir d'Alain, le signe de Séti, dans lequel tu dis l'extraterrestre que la personne qu'il a incarné, en fait le type de rapport que l'on a dépend de l'incarnation qu'on a créée. C'est-à-dire quand on se retrouve face à une bonbonne, on a du mal à regarder dans les yeux, quand on se retrouve face à quelqu'un, on a fabriqué, je dirais, par gourmandise, mais à ce moment-là, on regarde comme une gourmandise, et à partir de là, on communique. Donc, quel miroir fabrique-t-on? Comment l'humanité se définit? Comment l'humanité se tend à elle-même son propre miroir? Ce que tu fais quand tu es comme ça.
Espoir, tu sais, de Harrison, c'est exactement ça, le monde de la mort, mais c'est pas très loin du signe de Séti, dans le sens où, de l'opéra tchaïen, dans le sens où, effectivement, ils sont très loin à leur image. Ils ne le savent même pas, et leur image, elle n'est pas terrible, parce que l'humain, il faut quand même se dire, je ne suis pas français. Il y a une expression que je déteste. Monstre, peut-être un monstre, mais alors il est certainement supérieur. de l'extérieur. Mais chaque pierre, chaque papier en émerveillissant de son papier, chaque mouvement d'air est une menace pour les habitations de l'eau. Et évidemment, ce bête d'un tricheur, justement, mais la figure du tricheur est super importante, finalement, je trouve, pour l'humanité. Ce bête d'un tricheur finit évidemment par se perdre et il se retrouve un peu plus loin.
De la définition de l'humain, où tu peux soit décider qu'il y a des choses dans l'humain dont il serait bon de se débarrasser, soit au contraire décider que l'humain peut rester tel qu'il est mis, autant se déformer pour qu'il ait une structure plus grande, voire même qu'on fasse par agrégation, c'est-à-dire qu'on dise il y a des choses pas humaines, mais que l'on va intégrer dans une espèce de méta-humanité en disant ça c'est quand même vachement bien, puisqu'on arrive à communiquer avec, à la limite, c'est presque humain. Donc c'est toujours soit de l'intérieur se redéfinir, soit s'étirer pour faire ce qu'on veut, soit ben, ouvrons grand les bras et prenons des choses. Et cette redéfinition de l'humain, elle se fait effectivement en science-fiction, et presque, je dirais, en science-fiction seule, puisque la littérature générale ne sait pas le faire. Mon imaginaire, c'est bon. Elle n'est pas consciente de le faire, mais je dirais, quand elle définit par exemple la figure du monstre, qui est un trope de la littérature, quelle qu'elle soit, que ce soit la littérature générale, le polar, le thriller, vous avez des monstres. Et ce sont des monstres, entre guillemets, profondément humains, et la notion de non-humain, c'est plutôt là, on arrive à l'endroit où cette part de l'humanité noire et des ténèbres que j'ai, nous avons tous une part de morceaux et de ténèbres dedans, sauf moi qui fais un bisounours, vous avez quelque chose qui dit ça fait quand même partie de nous. Mais presque, il existe un corps constitué qui devrait apprendre à éradiquer ça. Et il existe des tentatives d'éradiquer ça. Alors que nous disons, au contraire, développons. Développons, agrégeons, prenons, intégrons, mangeons, dévorons. Ça donne ce personnage absolument extraordinaire qui va manger la jungle pour devenir lui aussi la jungle. Sa dernière minute, donc c'est vous réinventer l'humain, vous attaqueriez par quel bout, disons, vous êtes une femme.
quelqu'un qui est totalement dénué d'empathie. C'est mon fils, il est autiste. Je te dénie le droit de lui retirer la condition humain. Il a fallu lui apprendre absolument tout un tas de codes sociaux que toi tu as absorbé en descendant de ton berceau. Pour moi, depuis que je vis avec cet enfant, je sais que l'humanité, c'est pas l'empathie. Tu vois. Mais je le sais comme ça. L'empathie, c'est peut-être l'échange. Enfin, l'humanité, c'est peut-être l'échange. Parce que du coup, si tu veux, il ne ressent pas le besoin que je ressens d'avoir des câlins et des bisous. Mais il sait que j'en ai besoin parce que je le lui ai dit. Et donc, comme je le lui ai dit, il se dit que si c'est bien pour moi, il va me faire. Non. Il prend la décision de faire du bien parce que c'est peut-être, je ne sais pas, alors il y a un moment où sa pensée n'est pas accessible. Il fait des gestes. Tu vois. Il n'y a pas de fond derrière. Il a seulement l'intention. C'est qu'au fond, il y a l'intention, visiblement. Il y a l'intention de faire du bien à sa mère, même s'il ne comprend pas du tout pourquoi ce bien se crée, parce que j'ai un bisou sur la joue. Même si le mot je t'aime dans sa bouche est un mot balise, que jamais il n'a réussi à écrire en trois mots. Tu vois. C'est ce qui est très très. Il sait écrire et lire, si tu veux, mais quand il m'écrit, moi, les cartes postales qui me font, qui me font, c'est que je t'aime, c'est comme ça. Ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens pour moi. C'est que tu sais ce que j'ai envie. Alors ne me dis pas que l'empathie, et que tu l'as déjà sur moi, ça pourrait. Ça marche, on peut faire entrer. Mais ce n'est pas un seul critère unique. C'est ça que je veux dire. Non mais, que tu modules, enfin, tu vois, que est-ce que ça, je t'ai demandé.
Il y a aussi, n'oubliez pas quand même, il y a trouvé un carton dans son baptisé avec tout un tas d'objets de sa vie quotidienne. Et je peux vous dire que si l'empathie suffisait à caractériser un être humain, un nombre important d'hommes aurait des rapports avec leur voiture, qu'elle qualifie de contre les cœurs. Ça fait partie des choses aussi qu'on connaît avec sa voiture, son ordinateur, sa tablette, son téléphone, j'en sais, des objets. Des objets donc qui appartiennent à je dirais, enfin, disons avec lequel on a une interaction qui relève de l'empathie. Et je vous dis, la voiture, c'est l'exemple presque emblématique. Hein. C'est sérieux. Alors que tu as des gens qui ont des rapports absolument emblématiques avec leur voiture qui n'auront pas avec leur voisin de palier, ce qui est gênant. C'est vrai qu'enfin. je fais l'être humain est un animal et du coup tu refuses le, je dirais, l'être humain fantôme, tu n'as pas cette animalité, si je peux dire. Tu dis, voilà, c'est le refus, c'est le rejet qui définit l'humain. Et notre travail à nous, c'est d'essayer justement de ne pas le définir par le rejet, mais le définir par l'extension, par l'affection, par le fait de le refermer pour le prendre et le fait d'aller vers lui. Mais nous sommes la littérature qui faisons ça. Est-ce que je réponds à la question en fait?
Pour la question que vous posiez avec la différence entre l'humain et l'animal, c'est qu'un chat ne peut pas être qu'un chat. Un chat est limité par sa biologie. L'humain, sa biologie ne lui dicte pas grand-chose à part la labilité et la notion. Donc ça l'oblige à s'inventer parce qu'il n'a pas le choix. C'est exactement ce que disait lui. La science-fiction définit l'humanité par.
Merci, on va faire une conclusion là-dessus. La science-fiction définit l'humanité, ça me va très bien. On va laisser la place pour la remise du prix. Et je vous remercie d'avoir assisté à ce débat. Je remercie tous mes intervenants pour leurs brillants exposés.